nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Le temps des couturières. Paul Poiret, dès 1906, jette définitivement le corset des femmes aux orties. Puis, une modiste, dont on ne sait d'où elle sort, Gabrielle Chanel, invente de souples costumes inspirés du vestiaire du duc de Westminster, des vareuses de marins pêcheurs, des capotes des poilus de la Grande Guerre. Les femmes des villes coupent leurs cheveux, raccourcissent leurs jupes, se séparent de toute fanfreluche encombrante, indécente en ces temps difficiles. Les années 20, années folles, celles aussi selon Ernest Hemingway de la génération perdue, voient s'épanouir un redoutable quatuor féminin qui, ciseaux en main, épingle à la bouche, crée et magnifie la couture parisienne. Chanel, bien sûr, avec son subtil instinct et son agaçante insolence, Elsa Schiaparelli, qui s'empare du sportwear et de l'extravagant, et deux jeunes femmes d'exception au parcours assez parallèle, Madeleine Vionnet et Jeanne Lanvin. C'est Madeleine Vionnet qui, en réalité, fit sauter le corset. Née en 1876 dans le Loiret, dans une famille modeste, son père fut d'abord gendarme puis employé des douanes, elle est mise en atelier à l'âge de 13 ans, initiée à toutes les techniques de la couture. À 16 ans, elle décide de monter à Paris et le hasard des ateliers l'envoie en Grande-Bretagne où elle découvre à Londres les techniques de coupe des tailleurs de Savile Row. Madeleine Vionnet ne dessine pas de chronique, mais armée de ciseaux, elle ouvre sa maison en 1912, invente le manteau de ville et devient l'impératrice de la coupe en biais. Elle règnera plus de 30 ans sur la mode parisienne, toujours avec une égale invention, un souci de qualité rarement égalé. Ses idées très sociales lui font créer, bien avant le législateur, des cliniques, des crèches, des congés payés pour ses ouvrières, auxquelles elle lit Proudhon pendant les longues soirées, à broder de diaphanes robes de soirée. Madeleine Vionnet disparaîtra en 1975, presque centenaire. Jeanne Lanvin, elle aussi née pauvre, le 1er janvier 1867, est harpette à 13 ans chez Bonny Modiste. Elle dort dans l'atelier, fait les livraisons, le ménage. Avec quelques économies et un crédit chez les fournisseurs, elle ouvre sa propre boutique de mode en 1890 rue Boissy-d'Anglas. Elle a 23 ans. Sa clientèle s'élargit, la fait pénétrer dans le beau monde où elle rencontre un bel Italien dont elle a une fille, Marie-Laure, source de toute son ambition qui deviendra comtesse de Polignac. Habillant sa gamine, elle crée de jolies robes jeunes qui séduisent ses riches clientes et devient peu à peu la couturière, sans l'avoir prémédité, des jeunes filles. Célèbre avant la Grande Guerre, la pénurie l'incite à avoir sa propre usine de teinturerie. Les années 20 la consacrent, elle diversifie ses activités, épaulée par sa famille, crée Jeanne Lanvin Société en 1927, ouvre des succursales à Deauville, Biarritz, Monaco, impose le tailleur, agrémenté d'un chemisier souple. Elle, c'est Zola qu'elle lie à ses ouvrières. L'idée géniale de Jeanne Lanvin, tout comme celle de Gabrielle Chanel, qui inventa ce concept en 1924 avec son numéro 5, est de financer la couture qui est dispendieuse et rapporte peu, assise sur une clientèle restreinte, par la création de parfums dont les prix plus abordables dispense du rêve à un public large et plus modeste. Harpège voit le jour en 1927 et ne cessera jamais de tenir le haut du pavé, concurrent direct du numéro 5 de Chanel. C'est cette dimension qui manqua peut-être à Madeleine Vionnet. Toutes les trois se lancèrent aussi dans un prêt-à-porter vendu en boutique et non sur mesure, directement inspirée des modèles de haute couture et destinée aux femmes des classes moyennes. C'est en cela qu'elles furent pionnières, faisant descendre leur création dans la rue par un subterfuge économique. À L3, dans les années 30, elles donnent du travail à plus de 40 000 personnes. Après la Seconde Guerre mondiale, les temps ont changé. L'omniprésente Jeanne disparaît en 1946, mais elle confie sa maison à ses neveux. La clientèle américaine est là. Il suffit de tendre la main et de présenter de beaux modèles, et aussi d'avoir l'imagination de s'allier un créateur de génie, Antonio Canoyas del Castillo. La maison Jeanne Lanvin devient pour un moment Lanvin Castillo. Devenue plus que centenaire, la maison Lanvin est à la fois survivante d'une ère de folie créatrice et promotrice d'une démocratisation du luxe.